Africa.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur Mars Africa. Retour à la formule normale, 60 minutes tous les samedis entre 10h et 11h du matin à Casablanca, 9h à 10h GMT. Nous serons ensemble dans plusieurs capitales et capitales économiques de notre continent pour faire le bilan de la CAN et nous projeter vers des perspectives d'avenir, sachant qu'il y a beaucoup de sélections nationales qui vont changer d'entraîneur. Nous serons à Abidjan, au Bénin, en République démocratique du Congo, je l'espère au Burkina Faso, au Mali, en Tunisie, au Cameroun, au Gabon. Et bien évidemment, nous essaierons d'être les plus complets possibles. Après une première pause musicale, nous ferons notre première escale. Vous êtes sur Radio Mars. Bonjour le Maroc, bonjour l'Afrique.
La Côte d'Ivoire, inspirante terre d'hospitalité, reçoit l'Afrique. Jour de fête.
C'est quoi?
Et vous savez?
Voilà, ça va nous rappeler les danses et les musiques que les DJ dans différents stades en Côte d'Ivoire proposaient aux spectateurs et accessoirement aux téléspectateurs. Elisabeth Goulet, bonjour.
Oui, bonjour Amine.
Et encore une fois, félicitations. Ça va du fond du cœur.
Félicitations à l'Afrique.
Il va falloir que Elisabeth Goulet pavoise pendant une année ou un an et demi en lui disant « Ne me parlez pas, je suis championne d'Afrique ». Alors Elisabeth, je suppose que les festivités ont été très nombreuses. Est-ce que tu peux nous rappeler les moments forts de ces moments de liesse où joueurs, dirigeants, responsables politiques et populations ont partagé ce troisième sacre des éléphants?
Oui, effectivement. Bonjour chers auditeurs de la Radio Mars. Effectivement, les festivités ont été grandioses. Et on peut dire même que ça continue. C'est vrai que la vie normale ici en Côte d'Ivoire a repris son cours, mais partout, on assiste à certaines actions, notamment, il y a eu au cours de cette semaine, disons après le sac des éléphants, il y a eu une parade dans toute la ville d'Abidjan. Presque toutes les communes de la ville d'Abidjan ont vu de près, ont célébré cette victoire avec les éléphants, passé cette journée de célébration populaire dans la ville d'Abidjan. Il y a eu également la remise et la présentation du trophée au chef de l'État Alassane Ouattara à la présidence de la République. Et au cours de cette cérémonie, le président de la République a félicité les joueurs et il s'en est suivi des récompenses pécuniaires et autres dont la somme de 300 millions de francs CFA à la Fédération ivoirienne de football, 400 millions de francs CFA à l'encadrement technique, 100 millions de francs CFA au sélectionneur MS Faye, 50 millions de francs CFA à chacun des joueurs, plus une villa d'un montant d'une valeur de 50 millions également. Donc,
c'est alors, si on veut rapprocher tous ces chiffres que tu viens de dire, il suffit de diviser par 650 pour avoir la somme en euros déjà.
Voilà. Et après cette célébration, au cours de cette célébration, le président de la République a vraiment félicité l'esprit d'unité qui a rassemblé toute la Côte d'Ivoire au cours de cette CAN. Et à cet effet, il a même exhorté les Ivoiriens à continuer dans cet élan de solidarité, cet élan d'unité, afin que la Côte d'Ivoire devienne une véritable nation. et le président a demandé également à ce qu'on se fasse confiance nous-mêmes entre Africains, ce qui sous-entend qu'il fallait tout de même confirmer Faye Emes qui a réalisé un très bon résultat, un très bon parcours après ce que l'on appelait la résurrection de la Côte d'Ivoire des éléphants, et résurrection arrivée grâce à l'équipe du Maroc, à qui nous disons encore toujours merci, nous exprimons nos remerciements. Et au cours de ces événements de célébration et autres, jamais l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire, du Maroc en Côte d'Ivoire, n'a manqué à une festivité. Et après Abidjan, la présidence de la République, le président de l'Assemblée, le président de la Fédération ivoirienne de football s'est également rendu à l'Assemblée nationale pour présenter le trophée aux députés. Il est également allé dans la ville de Yamoussoukro, où on peut dire que les éléphants ont refait vraiment surface en battant le Sénégal. Il est allé s'incliner sur la tombe du premier président de la République de Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny. Donc on peut dire que les festivités continuent. Les séances et les séries également de remerciements, parce que le jeudi, le premier ministre, accompagné de certains membres de son gouvernement, ont fait le tour des offices religieux pour remercier les imams, les pasteurs, les prêtres, ainsi de suite, pour dire merci, merci pour cette victoire, pour la prière de chaque Ivoirien. Donc voilà un peu ce qui se passe depuis la troisième étoile obtenue par les éléphants, avec vraiment beaucoup de clarté, beaucoup de gaieté, surtout pour la Côte d'Ivoire qui est fière de cette troisième étoile.
Mmh. Bon, j'aurais remarqué que tout le monde remerciait le Maroc, à l'exception de Roger Milla qui estime que la Côte d'Ivoire a gagné le droit sur le terrain de poursuivre l'aventure en CAN et d'aller chercher ce titre. Alors justement, dans cette équipe, on annonce peut-être du changement puisque Max Alain Gradel envisage d'arrêter.
Oui, effectivement, ça lui fait deux étoiles. Il n'y a pas seulement que Max Gradel, parce qu'on apprend aussi que Aurier aussi qui dispose de sa troisième étoile après deux étoiles. Eux, ils sont de la génération 2015. Bon, lui aussi compte arrêter. Donc, on se dit qu'il y aura bien sûr du 109, et ce 109 déjà existe avec d'autres jeunes joueurs qui ont été appelés pendant cette CAN. Il y aura cette un vide, mais je pense que ceux qui ont été appelés, des joueurs comme Kosonou et autres, pourront vraiment combler ce vide pour pouvoir permettre à la Côte d'Ivoire d'être déjà au Maroc en 2025 et puis songer au prochain mondial.
Alors, songer au prochain mondial, il y a déjà des qualifications où il faut gagner. Emers Faye, je suppose qu'il a été ratifié comme sélectionneur officiel, de manière... Il ne sera plus intérimaire. Quels sont ses plans? Est-ce qu'il va renforcer le staff technique? Comment il va procéder pour surfer sur cette dynamique de succès et continuer à porter le maximum de choses positives à la Côte d'Ivoire?
Il n'y a pas encore de communiqué pondu à cet effet par la Fédération ivoirienne de football pour dire oui ou non, elle a confirmé ou elle n'a pas confirmé Emers Faye. Mais de sources bien introduites, on peut dire qu'il a été confirmé juste au lendemain du sacre des éléphants. Il a été, confirmé en tant que sélectionneur national. Et au vu de ça, bon, pour le moment, il n'a pas encore... décliner son plan de travail. Il n'a pas encore dit ce qu'il va faire, mais toutefois il a déjà sa vision de ce qu'il doit faire. Il a travaillé avec un staff technique qui lui a réussi. On suppose peut-être qu'il songera à renforcer cette équipe, mais c'est ce groupe-là. Mais comme on le dit, on ne change pas une équipe qui gagne. C'est vrai que les choses se sont déroulées vraiment très vite pour lui, très vite pour ces personnes avec lesquelles il a eu à travailler, mais je me dis que ce sont des personnes compétentes. Quand on sait, par exemple, que le kiné, le préparateur physique, il vient de l'équipe de la SEC et on voit vraiment les merveilles que fait la SEC au niveau physique et puis au niveau des résultats. Je ne pense pas qu'il aille chercher ailleurs, surtout qu'aujourd'hui, l'heure est de faire confiance aux nationaux, parce qu'on sait qu'en Afrique, pendant toute cette Coupe d'Afrique, pendant les différentes Coupes d'Afrique des nations qu'il y a eu, nous, on peut dire qu'il y a eu quatre sélectionneurs nationaux qui ont permis à leur pays d'avoir la Coupe d'Afrique des Nations, le premier Martial Yeo en 92 avec la Côte d'Ivoire, suivi de Djamel Belmadi, suivi également de Cissé Aliou du Sénégal, et vient il boucle pour le moment la boucle Faye et Metz. Et donc je me dis qu'il faut aussi faire confiance. Donc pour le moment il n'a encore rien dit sur ses objectifs et ambitions, mais je pense que s'il se réfère aux propos du chef de l'État Alassane Ouattara qui demande qu'on se fasse confiance entre nous, Ivoiriens, entre nous, Africains, je pense que l'heure sera sûrement de renforcer ce groupe avec des techniciens locaux.
Merci beaucoup, Elisabeth Goli. On se retrouve la semaine prochaine. Il sera question de Champions League et de compétition continentale des clubs pour pouvoir continuer l'aventure que nous menons depuis de très nombreuses années sur Mars Africa. Il est 10h14, on va continuer à parler de ce sacre, de cette CAN, et nous allons bien évidemment proposer un tour d'Afrique, un véritable tour d'Afrique, avec bien évidemment Élisée Onkpatine. Depuis Boïkon, Bénin, les voisins ont-ils vibré au triomphe de la Côte d'Ivoire et à la défaite du Nigeria en finale? Bonjour Élisée.
Oui, bonjour Amine Birouk et bienvenue au Bénin.
Alors, après cette bienvenue, comment les Béninois ont vécu cette finale de la CAN? Est-ce qu'ils ont été déçus par la défaite du Nigeria, puisqu'ils penchent le cœur, les voyaient soutenir beaucoup plus les Super Eagles que les éléphants?
Bien évidemment, puisque même dans cette soirée de finale épique entre Ivoiriens et Nigériens, j'étais un peu partout dans la ville, parcourir un peu la ville pour voir un peu, puisque pour suivre une telle finale, il faudra se déplacer un peu partout dans les bars, dans les buvettes pour voir un peu l'ambiance. Donc, je me suis déplacé un peu partout pour voir ce qui s'est passé durant cette finale. Ils étaient complètement déçus puisque la plupart étaient du côté nigérian, comme je l'ai expliqué la dernière fois, puisque le Nigeria et le Bénin partagent une histoire, partagent presque la même culture, puisque il y a, quand vous prenez le côté musulman, excusez-moi de m'exprimer ainsi, quand vous prenez le côté Yoruba, parce que quand on parle de Yoruba, la majorité des Yoruba sont musulmans, c'est vrai que eux tous ne sont pas musulmans, mais la majorité est musulmane, donc si vous prenez un peu le côté Yoruba, donc cela montre clairement que le Yoruba béninois vient complètement du Nigeria, donc quand on voit un peu la déception côté nigérian, côté béninois, puisque tous ils avaient un penchant pour une victoire nigériane en finale. Mais à vrai dire, il faudrait, parce que quelques-uns ont dit que la Côte d'Ivoire méritait largement de remporter le trophée, puisque quand on voit un peu la physionomie de la rencontre, au moment où les Ivoiriens ont complètement dominé la rencontre, les Nigériens pouvaient jouer mieux, puisque ils ont préféré reculer, ils ont joué bloc bas afin de défendre le seul but, parce que quand vous voulez défendre quelque chose, il faudra pouvoir être d'attaque, parce qu'on le dit souvent, la meilleure manière de défendre, c'est d'attaquer. Les Nigériens n'ont pas attaqué et ils ont laissé pratiquement le trophée aller du côté de Bénin. Les Ivoiriens ont mérité largement leur succès, puisque là, quand on voit un peu ce qui s'est déroulé du côté de la rencontre, les Ivoiriens ont pratiquement dominé la rencontre. Les Béninois étaient déçus, puisque le Bénin partage une histoire avec le Nigeria. Donc, plus de Béninois étaient du côté nigérian que ivoirien.
Il y a tout de même un élan de sympathie envers cette équipe de Côte d'Ivoire, vu son parcours, vu son destin. Je pense que c'est un lot de consolation un peu partout pour ceux qui soutenaient le Nigeria.
Bien évidemment, la Côte d'Ivoire était pratiquement éliminée, on se rappelle encore, au soir de cette lourde défaite de 4-0 contre la Guinée équatoriale. Et on voyait pratiquement la Côte d'Ivoire injecter de sa compétition, de sa Coupe d'Afrique des Nations, de cette compétition qu'elle-même elle a organisée. Et avec 3 points, on n'imaginait pas comment la Côte d'Ivoire pouvait se qualifier pour les 8e de finale. Et au fil des journées, puisque lors de la dernière journée des matchs de poule, les Ivoiriens se sont penchés sur le Ghana qui n'a pas réussi à se qualifier. Donc, ainsi de suite. Et pour le dernier match, c'était pratiquement ce match-là où le Maroc devrait racheter les Ivoiriens. Donc, ce match a été remporté 1-0 par les Marocains. Donc, ce qui a ressuscité pratiquement les Ivoiriens. Donc depuis ce jour-là, on a vu une toute autre image de cette équipe ivoirienne. On a vu une autre Côte d'Ivoire, j'allais dire, et une autre Côte d'Ivoire qui s'est métaphorée, qui s'est pratiquement transcendée, et que à chaque match, c'était une finale puisque les Ivoiriens n'avaient plus rien à perdre. Donc c'est vrai que c'était un peu partagé. C'est vrai que bon, il y a plus de Béninois qui avaient un penchant pour le Nigeria, mais ceux-là qui maîtrisent, bon, excusez-moi le terme, mais ceux-là qui maîtrisent un peu le football disaient quand même que cette Côte d'Ivoire, au vu de tout ce qu'elle a traversé pour arriver jusqu'en finale, elle pouvait remporter le trophée. Donc c'était chose faite. Les Ivoiriens, quand même, ont pu remporter le trophée. À part ça, la Côte d'Ivoire, c'est vrai qu'elle était menée. Hein, elle était menée déjà en première partie avec le but de celui-là même qui a permis au Nigeria de remporter le deuxième match de poule 1-0. Le capitaine de cette sélection. Donc, on pensait que voilà, le Nigeria pouvait garder ce score puisque cette équipe nigériane, on l'a vu tout au long de la compétition. C'est vrai qu'elle n'est pas extraordinaire, elle ne produit pas un grand jeu, mais quand elle arrivait à marquer, bon, elle avait cette capacité de, bien sûr, de garder le score. Donc, on pensait que les Nigériens pouvaient garder, bien sûr, ce score, mais c'était sans compter sur la détermination de ces Ivoiriens qui étaient sûrs d'eux-mêmes. Eh bien, voilà. Donc, on a vu une très grande équipe ivoirienne qui, miraculée, a dû aller au bout de ses objectifs. C'est bien sûr de remporter le trophée.
En tout cas, merci beaucoup Élisée Onkpatine pour toutes ces explications. On se retrouve la semaine prochaine puisqu'il sera question de Champions League. Peut-être une dernière question, puisqu'on parle de compétition continentale. Il y avait un match décalé de la Champions League où Ali était en Algérie contre Belouizdad et Ali s'en est, ma foi, fort bien sorti avec un match nul 0-0.
Bien sûr, bien évidemment, puisque le CR Belouizdad pouvait remporter le match, puisqu'il pouvait remporter cette explication, puisqu'elle s'est procurée beaucoup d'occasions. Cette déception côté algérien, un point bien pris côté égyptien. C'est vrai que c'était un match décalé, mais on a vu une très bonne équipe algérienne qui a joué pour remporter les trois points. Bon, voilà, comme c'est une compétition, d'abord on est à l'étape des matchs de poule, il faudra maximiser beaucoup de points afin de se qualifier pour le second tour. Donc on pourra dire que la nationale à l'indiquer a fait une très bonne option en allant chercher le nul du côté de l'Algérie. Les Algériens vont s'en prendre à eux-mêmes puisqu'ils avaient la possibilité quand même de prendre les trois points. C'était sans compter sur la détermination de la défense égyptienne. En tout cas, les matchs retour vont reprendre très bientôt puisque déjà en début de semaine, on aura le vendredi prochain, c'est bien sûr la cinquième journée et là, on sera véritablement, on aura une idée claire hein, sur ceux-là qui seront qualifiés pour les huitièmes de finale, pour les quarts de finale, j'allais dire.
Merci beaucoup, Élisée. Il est 10h21. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour continuer à parler de compétition continentale. On sera dans le vif du sujet avec la cinquième journée de la Champions League et de la Coupe de la CAF. Direction à présent, Kinshasa, en République démocratique du Congo, avec notre ami Michel Tobo. Nous allons effectuer un bilan de la participation très honorable des Léopards qui ont fini quatrième de la CAN. Bonjour Michel.
Bonjour Amine, bonjour à tous les auditeurs de Radio Mars. Merci encore hein, de me donner ce petit moment justement pour parler voilà, de l'actualité sportive de Mouratou du Congo. Mais on va bien entendu garder hein, la grande actualité hein, qui vient de prendre fin du côté de la Côte d'Ivoire hein, avec cette 34e édition de la Coupe d'Afrique de Nations où les Léopards de la République démocratique du Congo faisaient leur 20e participation, une participation à réussir. Voilà, dans l'ensemble au regard justement du résultat atteint. C'était au-delà des espérances. Hein, donc les Léopards participaient à cette compétition dans l'objectif de faire mieux qu'en 2019 hein, lors de leur dernière participation. Ils ont fait plus que mieux, voilà. D'atteindre les demi-finales, une place où personne ne les attendait forcément, avec cette nouvelle génération de joueurs congolais, des binationaux congolais, que Sébastien Desabre est allé convaincre justement pour venir donner à ce coup de pouce à cette sélection qui est en reconstruction totale, voilà. Et voilà, il fallait justement une échelle, hein, voilà, de mesures pour essayer de tenter de trouver les solutions requises pour permettre justement d'ajuster là où il faut ajuster, parce que je ne cesserai de vous le dire que l'objectif pour cette sélection nationale, hein, c'est la prochaine Coupe du Monde, voilà. Et la prochaine Coupe du Monde, ça passera bien évidemment par des bons résultats, d'avoir une équipe assez homogène qui va évoluer plus ou moins correctement pour avoir des résultats et se compter. Sébastien Desabre le sait, c'est l'objectif que le gouvernement congolais et la Fédération congolaise de football association Lyon a signé. Il le sait et il le fait avec beaucoup de délicatesse, en tout cas pour le moment. Tout va bien, voilà, disons les choses telles qu'elles sont. Tout va bien pour le moment. Cette place en demi-finale va encore aider la sélection à avoir d'autres binationaux certainement, et évidemment il faudra pas oublier également, hein, parce qu'il y a également un très fort vivier de footballeurs, de jeunes footballeurs congolais ici au pays. Mais bon, voilà, la polémique va toujours exister, hein, entre les binationaux et les joueurs évoluant au pays. Ben, libre au sélectionneur, hein, de faire l'équipe avec les joueurs qu'il trouvera mieux, en tout cas, pour lui permettre d'atteindre ses objectifs. Donc, s'il doit prendre ici au pays, il les prendra. S'il doit prendre à l'extérieur du pays, il les prendra également. Mais l'essentiel pour nous, c'est que les Léopards réussissent justement à aller lors de la prochaine Coupe du Monde en 2026. L'édition 2023 est passée. Voilà, on se focalise maintenant sur l'édition 2025 qui se déroulera chez vous au Maroc. Donc, voilà, ça sera avec les mêmes ambitions, très clairement, parce que les Léopards ont atteint les demi-finales. Le prochain objectif, voilà, c'est très ambitieux, oui, bien sûr, mais il faudra maintenant aller essayer de titiller la finale. Ça va être compliqué, on le sait, bien évidemment, mais je pense que pour le moment, les staffs techniques et les joueurs sont conscients de la tâche qui leur est dévolue. Voilà, il faut faire de leur mieux pour essayer d'atteindre, en tout cas, voilà, minimum encore, hein, les demi-finales pour la prochaine édition, et pourquoi pas cette finale qui fouille les Léopards depuis près de 50 ans maintenant, voilà, lors de l'édition de 1974, hein, où les Léopards avaient atteint la finale pour la dernière fois. Mais ce qui est sûr, le bilan de Léopards d'Abidjan de Mouassou du Congo à cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations est largement positif. Largement positif. Ce sont des bases qui sont posées et qui serviront justement pour les prochaines échéances aux éliminatoires de la Coupe du Monde et aux éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique de Nations. Voilà, Amin Birouk, voilà, c'est le peu que j'avais à vous dire, hein, par rapport justement à cette petite analyse de la participation de Léopards d'Abidjan de Mouassou du Congo à cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Merci, bonne continuité à vous. Et puis voilà, on se retrouvera certainement la semaine prochaine pour d'autres actualités sportives.
Ah ben, il y aura certainement beaucoup de choses, Michel, puisque nous parlerons de Champions League avec le TP Mazembe et ses chances d'aller au prochain tour de la compétition. Nous reviendrons avec notre tour d'Afrique sur Mars Africa dans quelques instants après une page de pub.
Africa, Africa. Ici ou ailleurs, la paix crie du bonheur. Même si le ciel pleurait, luttons pour nos frères. Konjamo Africa, mom la nyan. Manejamo Africa, moi sonyo natange.
Il est 10h30 à Casablanca, 9h30 sur le fuseau horaire GMT sur notre continent. Direction le Burkina Faso, après la chanson Jamo Africa d'Ismaïlo. Nous allons retrouver Jean-Modeste Ouedraogo depuis Ouagadougou. Bonjour Jean-Modeste.
Bonjour Amine, bonjour à tous les auditeurs de Radio Mars. Vous m'avez beaucoup manqué, parce que Cannes oblige.
Ben, la Cannes t'a obligé à travailler. Bon, on t'a pas oublié, nous, on t'a gardé dans notre cœur. Et on a pensé à te solliciter après la Cannes pour en savoir un peu plus. On commence par ce bilan des étalons du Burkina. Je pense qu'il y a un goût d'inachevé après cette élimination en huitième de finale face au Mali. Jean-Modeste? Petit problème de connexion, je pense qu'on va devoir patienter quelques secondes. Alors je disais Jean-Modeste, déception des étalons après l'élimination en huitième de finale face au Mali.
J'avais comme l'impression que cette équipe de Burkina manquait un tout petit peu de jus. Il y avait quand même au niveau de l'attaque du Burkina, des joueurs qui manquaient à l'appel. Qui sont arrivés un peu blessés, Bertrand Traoré blessé, Dango Ouattara blessé. Ce qui fait que l'équipe de Burkina est arrivée vraiment du mieux à cette CAN. Mais malgré tout ça, le Burkina avait quand même un peu d'espoir parce qu'il y avait quand même un certain nombre de jeunes joueurs sur lesquels le Burkina comptait. Mais malheureusement, à l'arrivée, c'était un peu trop costaud pour le Burkina, en huitième de finale surtout. Lorsque le Burkina rencontre le Mali, l'une des meilleures équipes de cette compétition, j'ai envie de dire, le Burkina était vraiment en difficulté et finalement le Burkina s'incline 2-1. Ben, ici au Burkina, on a tout simplement l'impression que la faute revient à l'entraîneur. Naturellement, c'est le fusible qu'il faut sauter lorsque ça ne va pas. Parce que c'est lui qui a fait les choix lors du match contre le Mali. La gestion des hommes est haute. Donc finalement, Hubert Velu a payé cash pour... n'avoir pas fait mieux.
Disons que le fusible a sauté.
Ah oui, bien sûr. Le fusible a sauté parce qu'il n'a pas fait mieux que la CAN passée. La CAN passée au Cameroun, le Burkina a fini quatrième. Et l'entraîneur qui était là, Kamoumalo, n'a pas été renouvelé aussi parce que, bon, voilà, vous comprenez, à l'époque, ça a fait beaucoup de goals chaudes parce que les gens ont dit, ben, pourquoi il a atteint les demi-finales, il est quatrième à la fin et puis on ne renouvelle pas son contrat. Et voilà, donc Hubert Velu qui n'a pas atteint les cas, il n'a même pas atteint, enfin il s'est arrêté en huitième de finale, ne pouvait pas ne pas être, on ne pouvait pas ne pas le sauter. Donc finalement il a été sauté et à la fin, pour le moment le Burkina Faso est dans une incertitude. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer dans les jours à venir parce qu'il y a tellement de crises dans ce football-là et au niveau de la fédération. Il y a des crises à la fédération, les clubs qui vont en grève, qui refusent de participer au championnat et aux activités de la fédération. Donc les crises sont nombreuses actuellement et le football burkinabé est dans l'incertitude. Pour le moment, il n'y a pas d'entraîneur.
Pas de nom de successeur dévoilé potentiellement, une shortlist des favoris, des outsiders pour reprendre la main.
Ah ouais? Pour reprendre la main, pour le moment, l'idée c'est de miser sur un entraîneur local. Mais à ce niveau, il faut le dire tout net, la ressource humaine se fait un peu rare quand même, Amine. Parce qu'il n'y a pas assez de Burkinabés qualifiés pour prendre cette équipe. Donc du coup, voilà, nous sommes dans l'incertitude. D'aucuns pensent que l'entraîneur adjoint Firmin Sanou pourrait prendre l'équipe parce que lui, il a été formé en France. Il a joué en France, il a été formé en France, il a les diplômes européens. Donc il pourra, pourquoi pas, à l'image de Regragui ou de Belmadi ou de Aliou Cissé, ou même encore de MS Faye, prendre la tête de cette équipe de Burkina. Mais pour le moment, ça reste des supputations. Sinon, actuellement, l'ère du sorcier blanc est révolue au Burkina parce que d'aucuns pensent que Voilà, ils ne vont plus aller chercher un sorcier blanc parce que ça ne nous apporte pas grand-chose.
Bah, il va falloir se pencher sur le produit local ou le produit africain, pas forcément burkinabé, mais avec de l'expérience, du vécu en Afrique et qui soit africain. Donc, une piste peut-être envisagée.
Oui, c'est vrai, parce que à ce niveau, il y a des observateurs qui pensent effectivement qu'il ne faut pas forcément se tabler sur le fait qu'il soit burkinabé. S'il est africain, c'est intéressant parce qu'au niveau africain, il y a pas mal d'entraîneurs de qualité. Donc, il faut peut-être regarder vers les autres pays africains, notamment au Maroc, il y a des grands entraîneurs. Il y a aussi des entraîneurs qui sont sénégalais, il y a des entraîneurs qui sont maliens, il y en a ivoiriens qui peuvent venir prendre l'équipe, il y en a congolais. Entre-temps, ils ont pensé aussi à Florent Ibengue qui avait pris votre équipe Berkane, il avait entraîné Berkane, donc d'aucuns pensent qu'il est actuellement libre et qu'il pourra aussi faire l'affaire. Donc effectivement, c'est de vraiment regarder et ne pas se tromper et choisir l'homme qu'il faut, parce qu'aujourd'hui, il faut quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup de caractère, il faut quelqu'un qui a de la poigne pour pouvoir donc reprendre cette équipe-là, parce qu'il y a beaucoup aussi d'indiscipline au sein de cette équipe, il faut remettre un peu tout le monde à l'endroit.
Donc un échec de Hubert Velu, il n'en est pas un échec près sur notre continent. Ces dernières expériences au Soudan, au Burkina Faso, ou dans certains clubs, n'ont pas été franchement des réussites. En tout cas, la dernière au Burkina Faso n'a pas plu aux dirigeants à Ouagadougou. Merci beaucoup, Jean-Modeste Ouedraogo. On se retrouve très prochainement.
Merci.
Il y a beaucoup d'échéances qui nous attendent.
Merci, Amine. C'était un plaisir.
Et nos salutations au pays des hommes intègres. 10h36 sur Radio Mars, 9h36 sur notre continent, sur la côte ouest de notre continent, sur tous ceux qui sont sur GMT, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Mali, dans plusieurs pays, amis et frères. Nous allons continuer à faire notre voyage. Il y a encore des escales en Afrique du Nord, peut-être à Tunis, peut-être à Bamako. En tout cas, on essaiera d'avoir nos différents correspondants un peu partout sur le continent. Nous irons en Tunisie chez Ahmed Adala. Bonjour Sidi Ahmed.
Bonjour Ami, bonjour à tous les chers auditeurs et auditrices de radio.
Alors, sélection tunisienne cherche toujours sélectionneur?
C'est toujours sans sélectionneur, mais en Tunisie, le sujet le plus important maintenant, c'est les élections de la Fédération tunisienne de football, qui va succéder à Wadi Algeri, qui est déjà emprisonné. La liste, les membres du bureau fédéral actuel ne vont pas présenter leur candidature. Donc, c'est plutôt la guerre froide. Après, pour le sélectionneur, c'est un sujet qui a été remis en deuxième position, en attendant peut-être un choix qui va venir peut-être en mars après l'élection du nouveau bureau, tout en sachant que plusieurs noms ont déposé leur candidature et plusieurs noms ont été contactés quand même par en place par la FTF. On parle ici par exemple Diego Bros, l'actuel sélectionneur du Sud, mais aussi d'autres noms qui sortent à gauche et à droite.
Ouais, il faut remettre de l'ordre dans la maison. Il y a un nouveau président pour avoir un interlocuteur crédible auprès de ces entraîneurs qui ont été sélectionnés. Est-ce que dans la liste des candidats à la présidence, il y a des anciens joueurs, des anciens internationaux qui pourraient prendre la main, ou bien on est toujours condamné en Tunisie à nous diriger vers les présidents de clubs et ils sont de moins en moins à faire la queue pour se présenter?
En fait, sans rentrer trop dans le détail, Amine, c'est des critères qui font de telle sorte que plusieurs joueurs n'ont pas pu présenter leur candidature, que ce soit pour être membre fédéral ou être président, parce que les critères, ils sont très difficiles. Et d'où l'appel de plusieurs internationaux à changer les critères. C'est compliqué, Amine. Il faut demander une feuille de route auprès de la FIFA. Il y a deux, trois joueurs, anciens joueurs, qui ont, par exemple, disputé la Coupe du Monde 78, mais il n'y a pas vraiment de joueurs de la génération 2004 qui refusent pour le moment de se présenter dans les listes en appelant à changer les critères. Il faut demander une feuille de route auprès de la FIFA, à la FIFA. La FIFA va certainement, peut-être, va peut-être intervenir pour désigner un bureau désigner un bureau pour assurer l'intérim. Certainement, ça sera le bureau fédéral actuel sur approbation du club. Ensuite, on va entamer les changements des critères parce que les critères qui ont été mis en place par l'ancien président, ils sont vraiment sur mesure, quoi. D'où vraiment, il n'y a pas vraiment de grand nom. Il y a 4 listes. La deadline est fixée pour aujourd'hui. Il y a 4 listes qui vont déposer leur candidature. Hier, il y a eu dépôt de la première liste, mais finalement, ce dépôt a été reporté aujourd'hui parce qu'il y a des paperasses manquants quant à un des membres du bureau. Il y a 3 listes attendues aujourd'hui. C'est à midi que finissent le dépôt des dossiers. Après, on se dirige certainement, je peux vous l'avancer, à un report des élections et à un changement de critères parce que je pense que après le comité chargé des élections, il va étudier et examiner les dossiers. On va s'attendre à des surprises.
Alors, je rappelle qu'au classement FIFA, la Tunisie a dégringolé de 14 places. Elle est passée de la 28e à la 42e place. Ça va compliquer un peu la trajectoire des Aigles de Carthage dans les éliminatoires de la CAN, dont le tirage au sort aura lieu dans les prochains jours. Il y a un risque de ne pas être tête de série dans ces éliminatoires.
Exactement. Je ne veux pas dire une catastrophe, mais c'est un cauchemar. C'est une douche froide. C'est un record. D'ailleurs, ça fait des années qu'on n'a pas été classé 40e à la 40e position. Je pense que c'était en 2013 ou 2015. Le plus dur, c'est de revenir. Le plus dur, c'est d'être à la tête d'un groupe dans le chapeau A. C'est très difficile. Écoute, Amine, c'est le désordre total, que ce soit sur le plan administratif ou sur le plan sportif, non seulement à l'équipe nationale, mais également au championnat, qui a été repoussé. D'ailleurs, les playoffs, on parle du système play-out, play-off. Le play-off va commencer le 5 ou 6 mars. Après autant de repos, les clubs ont pris 3 mois de repos. C'est inadmissible dans une saison qui est une trêve qui dépasse la mois ou 15 jours, un mois. Il y a tout un chantier, hein. Il y a tout un chantier, Amine, et c'est vraiment, ça sera le prochain bureau aura la lourde tâche de tout remettre sur rail.
Alors ma dernière question, elle est maroco-marocaine, mais en même temps tuniso-tunisienne. Il y a un match au sommet ce dimanche entre le Wydad et la Renaissance sportive de Belken, et un duel à distance entre deux entraîneurs de deux générations différentes. Il y a Fawzi Benzarti qui a envie de partir, mais qui reste finalement, et il y a Moïn Chiabani qui vient d'arriver à Belken. Comment tu vois cette confrontation entre ces deux entraîneurs?
Écoutez, on va certainement la suivre de près, cette confrontation. Moïn Chiabani, il est adoré. Fawzi Benzarti, il est adoré. C'est le maître qui va affronter son élève. Il était son adjoint, hein, il faut pas l'oublier. Il était son adjoint à l'Espérance sportive de Tunis pendant un an et demi. Je pense que dos au mur, le Wydad est dos au mur. Après Nahda de Berkane, la Renaissance de Berkane, il faut du temps pour comprendre le système de jeu de Moïn Chiabani. On va certainement suivre cette rencontre avec beaucoup, 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 beaucoup d'attention.
Merci beaucoup, Ahmed Adala. Bon week-end et bonnes élections en Tunisie. Il est 10h42. On va aller au Mali, à Bamako, retrouver notre ami Drissa Diallo pour en savoir un peu plus sur l'avenir des Aigles du Mali. Il y a également une escale à faire au Cameroun. Elle est obligée après un mois où notre ami William Tchango n'était pas parmi nous. En attendant, voilà, Bamako. C'est un samedi à Bamako. C'est jour de Mars Africa. Bonjour Drissa Diallo.
Bonjour Amina. Bonjour à toutes et à tous.
Alors, comment on a vécu le sacre de la Côte d'Ivoire dans le Mali voisin déjà?
Alors d'abord, ceux qui sont ici et qui sont ivoiriens étaient très contents. Et par ailleurs, les Nigériens, quand même, ont été très déçus parce que ici, à Bamako, c'est vrai, et même s'il y a certains également qui voulaient voir le Nigeria triompher parce qu'ils n'avaient pas oublié cette défaite qu'il y a à la dernière seconde en quart de finale face aux Ivoiriens. En tout cas, au niveau de l'ambassade de Côte d'Ivoire, la joie était partout et l'ambassadeur, surtout le chargé d'affaires du côté de Bamako, a quand même exprimé également sa satisfaction et également mis un point sur la fraternité qui existe entre le Mali et la Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'il y a un moment avant le match Mali-Côte d'Ivoire, il y avait de la tension, il y avait de l'incompréhension. Mais après, tout a été remis en ordre parce que ce soit au Mali ou à Abidjan. Donc, les autorités ont fait des communiqués pour appeler les uns et les autres à l'ordre. En tout cas, ici, les Ivoiriens, quand même, ont fêté. Et en tout cas, ils étaient très contents pour cette troisième étoile à remporter cette étoile à domicile.
Alors, du côté des Aigles du Mali, je pense qu'on prépare l'avenir. Est-ce qu'ils ne passeraient pas par un match amical face au Maroc qui serait programmé au mois de mars prochain?
Exactement, c'est exactement ça. En tout cas, le mercredi, le comité exécutif de la Fédération malienne de football a tenu une réunion au cours de laquelle le bureau exécutif a renouvelé sa confiance officiellement au sélectionneur national des Aigles, Eric Sekouche. Alors, pour l'instant, c'est vrai, et il y a des discussions concernant un match amical en mars face au Maroc. Alors, ce qui est également attendu, c'est où la rencontre va être disputée, à Bamako ou bien du côté de Rabat. C'est toute la question qui reste à déterminer. En tout cas, les Aigles, quand même, en plus du Maroc, sont en train de chercher également un second match amical, soit face à une autre formation africaine ou face aux Pays-Bas. Les négociations sont en cours pour déterminer ce second match amical également. Mais en tout cas, en ce qui concerne le match face au Maroc, les discussions sont en cours. Maintenant, la question qui reste, c'est où est-ce que le match va se disputer?
Alors, si c'est au Maroc, ce serait pas Rabat parce que le stade est en chantier, mais ça pourrait être à Marrakech ou à Agadir. Sinon, il y aurait peut-être une possibilité d'envisager ce match sur terrain neutre. Et alors, la rencontre pourrait être délocalisée en Europe. Mais en tout cas, selon plusieurs informations concordantes, il y a des discussions entre les deux fédérations marocaines et maliennes. Justement, il va falloir se pencher sur le classement des Aigles du Mali. Ils sont 8e nation africaine à la 47e place de FIFA. Est-ce que ça ne donne pas des frissons, d'inquiétude par rapport à la possibilité de ne pas être tête de série pendant les éliminatoires de la CAN 2025?
Alors, bon, pour l'instant, je crois à travers sa position de 8e place, c'est vrai, il y a ce match amical international face au Maroc. Mais entre-temps, entre la 9e et la 10e position, il y a en tout cas un petit point d'écart entre ceux qui suivent le Mali. En tout cas, la déception, en tout cas, c'est vrai, elle est au niveau de cette élimination où le Mali pouvait encore, face à la Côte d'Ivoire, où le Mali a raté l'occasion également d'engranger des points, surtout au niveau africain, parce qu'avant le début de la CAN, le Mali était déjà également 8e africain, mais 50e au niveau mondial. Mais il a pu quand même engager 4 places pour se retrouver à la 47e place sur le plan international. En tout cas, en ce qui concerne les éliminatoires de la CAN, en tout cas pour le Mali, il n'y a pas d'inquiétude parce que tout ce qui est quand même voulu ici, chaque année, et c'est une obligation également pour certains supporters, qu'à partir du moment où le nombre d'équipes a augmenté, le Mali ne peut pas se permettre de ne pas se qualifier à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations.
Merci beaucoup, Drissa Niono. On se retrouve la semaine prochaine, Inch'Allah, pour pouvoir, Inch'Allah, bien évidemment, continuer à parler cette fois-ci de compétitions continentales et notamment du club malien engagé en Coupe de la CAF. Il est 10h48. Il reste des départs vers l'Afrique centrale pour pouvoir, bien évidemment, parler de la CAN vue de cette région du continent et puis envisager l'avenir avec les sélections de ces pays-là. Franchement, il y a beaucoup de choses intéressantes à rapporter, à raconter à nos auditeurs au Maroc et un peu partout sur le continent concernant le post-CAN. Déjà la semaine prochaine, il y aura les compétitions continentales des clubs et il y aura d'autres engagements pendant toute la période qui nous mènera jusqu'à la fin de la saison. Éliminatoire de la CAN 2025, éliminatoire de la Coupe du Monde 2026, les compétitions des jeunes, sans oublier ces coupes africaines où le Maroc a deux clubs engagés, à savoir le Wydad de Casablanca en Champions League et la Renaissance sportive de Berkane en Coupe de la CAF. On peut aller au Gabon, du côté de notre ami Rodrigue Bekele, ou encore au Cameroun avec William Tchango. Hein. C'est un peu l'Afrique centrale pour pouvoir, bien évidemment, retrouver, je dirais, les saveurs de cette région du continent qui a regardé avec un peu de jalousie, il faut le dire. Ils sont jaloux je dirais, les exploits de la Guinée équatoriale voisine. D'ailleurs, Emiliano Nsoué, le buteur de la CAN, a été suspendu sine die par la Fédération équato-guinéenne. Voilà, autant d'informations qu'on aimerait évoquer avant la fin de l'émission.
C'est toi que je veux, c'est toi ma bien-aimée. On va se plaindre, et c'est pour la vie, bébé. Personne ne pourra nous séparer. Non, 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 personne ne pourra nous séparer. On va s'éclater.
Les choses promises, choses dues, nous irons au Cameroun chez notre ami William Tchango, qui a été très occupé pendant la CAN avec le staff média de la CAF et qu'on retrouve avec beaucoup de plaisir. Bonjour William. Bonjour William.
C'est un bon moment.
Alors on a du mal à t'entendre, si tu peux un peu hausser la voix. William, on va faire un bilan du Cameroun et des médias.
Bonjour Amine, bonjour à tous les auditeurs.
Bonjour William. Alors, on va parler du Cameroun éliminé en huitième de finale avec un président de fédération qui a démissionné, qui a été reconduit dans ses fonctions. Est-ce que c'était pour l'opinion publique une façon de se dédouaner ou bien c'était sincère de la part de Samuel Eto'o?
C'est difficile de dire avec exactitude le projet qui était caché derrière cette supposée démission du président de la Fédération camerounaise de football. Toujours est-il, ça a été perçu dans l'opinion comme une farce ou bien comme une manière justement de manipuler encore une fois l'opinion publique. Donc tout le monde a été plus ou moins surpris par cette sortie. Parce que on sait bien que lorsque quelqu'un a besoin de démissionner, n'a pas l'avis du commerce. Dans la démission, c'est quelque chose qui vient du fond, du cœur. Et puis, vous démissionnez parce que vous sentez que vous n'avez plus les capacités d'assumer les fonctions qui sont les vôtres. Et maintenant, on se demande s'il accepte finalement de rester parce que ses pairs du comité exécutif l'ont supplié. Est-ce que ce sera encore avec la même motivation, sachant qu'au fond de lui, il avait envie de démissionner? Donc ça laisse complètement perplexe tout ce scénario qui, à mon sens, avait certainement pour but de faire oublier un peu le sujet de l'élimination du Cameroun à la Coupe d'Afrique des Nations pour passer à autre chose, parce que on est habitué à ce genre de manœuvres là au sein de l'opinion camerounaise où il faut toujours créer une histoire pour faire oublier ce sur quoi tout le monde était focus pendant un moment. Donc
l'histoire de Roger Milla, on sait toujours qu'il a petite dent contre le Maroc, avec sa sortie où il disait que il fallait arrêter les célébrations maroco-ivoiriennes, que la Côte d'Ivoire ne devait rien au Maroc par rapport à son titre ou par rapport à sa qualification.
Non, bien sûr que le Maroc s'est montré solidaire à la Côte d'Ivoire, et c'est pas une sortie de Roger Milla qu'il a dit qui va peut-être changer quelque chose à mon sens. Oui, bon, on va dire que la Côte d'Ivoire s'est qualifiée par rapport au règlement, par rapport à ce que prévoit le règlement, mais si le Maroc n'avait pas, qui n'avait pas besoin de gagner ce dernier match, si le Maroc l'avait pas fait, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire serait pas en train de célébrer ce sacre-là, ce sacre africain-là. Donc, je pense que même les Ivoiriens, dans leur ensemble, ils ont célébré le Maroc. Ils ont, comme tout le monde a compris, y compris le staff, le public et tous ceux qui tournent autour d'eux. Tous les Ivoiriens ont célébré le Maroc. La preuve, même après le sacre, il y en a qui ont carrément brandi le maillot du Maroc.
C'est ce qui n'a pas plu d'ailleurs à Roger Milan.
Voilà. Et lorsque le drapeau du Maroc est apparu sur l'écran du stade des Bimpé après le passage du drapeau, la récupération du drapeau pour l'organisation de la prochaine édition, c'est tout le stade qui était en furie qui a sauté de joie, en fait, pour reconnaître le rôle clé que le Maroc a joué pour la qualification de la Côte d'Ivoire en huitième de finale. Donc, c'est tout à fait normal aujourd'hui que les Ivoiriens marquent leur reconnaissance au Maroc, à ce qu'a fait le Maroc.
Alors, on va essayer de faire très vite, William, une dernière question. Rigobert Song, il reste ou il s'en va?
Pour le moment, on est plutôt muet au sujet de l'avenir de Rigobert Song au niveau de la Fédération Camerounaise de football. C'est vrai que le jour où la FECAFOOT tenait sa dernière réunion du comité exécutif, il y a ces communicants qui sont sortis par vague pour annoncer que l'une des résolutions de cette réunion serait de mettre un terme au contrat de Rigobert Song. Son contrat arrive à expiration dans quelques semaines, tout simplement. Et la tendance, normalement, si on s'en tient à ce résultat, la tendance serait à ce que son contrat ne soit plus renouvelé. Mais maintenant, on sait pour quel rôle il joue exactement. On sait que Samuel Eto'o a parfois intérêt à ce que Rigobert Song soit à la tête des Lions Indomptables pour pouvoir assouvir tous ses désirs, tout ce qu'il veut dans cette équipe, parce que il est question de rechercher un entraîneur qui n'a pas une forte personnalité aujourd'hui. C'est pas facile d'en trouver ou bien d'étudier les profils, et peut-être en attendant de trouver un autre qui va effectivement jouer le rôle que joue Rigobert Song aujourd'hui. Ça va prendre un peu de temps, mais on espère que finalement on va se remettre en question.
Bien évidemment, et
trouver un entraîneur qui soit capable d'avoir les pleins pouvoirs et d'assumer effectivement.
Et d'avoir les galons et la personnalité pour résister à un président ultra omniprésent. Merci beaucoup William Tchango. On se quitte sur cette dernière intervention depuis Yaoundé, en remerciant tous nos amis qui étaient dans différentes grandes villes africaines de nous avoir éclairés par rapport aux célébrations de la CAN, au bilan de la CAN, en espérant bien évidemment qu'en refermant ce chapitre ivoirien, on ouvrira un autre beaucoup plus glorieux en direction du Maroc, et en attendant bien évidemment de nous focaliser la semaine prochaine sur les compétitions des clubs. Merci à notre ami Absamad qui était à la réalisation. Rendez-vous samedi prochain, 10h, 11h, heure marocaine, 9h, 10h, GMT, avec d'autres aventures et d'autres correspondances sur Mars Africa. Dans quelques instants, le Flash Info suivi de l'émission Il n'y a pas que le sport, Makech Rilkou.
Mars Africa.